Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Spear, je suis votre animatrice et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis en compagnie, moi, de Sébastien Boulris, avocat, conseiller budgétaire et juridique pour Options Consommateurs. Allô Sébastien!
Bonjour Marianne, comment vas-tu?
Ben ça va bien toi?
Ça va pas pire, oui, ça va pas pire.
Ça va pas pire. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, je voulais parler des plans de financement.
Okay.
Vu qu'on approche...
Tu t'es fait avoir?
Non, mais j'ai l'impression que beaucoup de poissons vont mordre à l'hameçon. Et là, vu que Noël s'en vient, période où ce qu'on consomme quand même relativement beaucoup, j'ai l'impression que les gens vont peut-être adhérer à ce phénomène-là, tout ce qui est PayBright, AfterPay, Settle, ces choses-là.
Fait que tu vas jouer le rôle de phare aujourd'hui pour tous les,
je vais essayer,
pour tous les poissons.
Je vais essayer de pouvoir définir ce que c'est, ce phénomène-là. Également donner quelques conseils et qu'on puisse peser le pour et le contre là, de ces plans de financement.
Okay. Fait qu'on commence avec... allons-y avec une définition. J'ai l'impression que ça le dit dans le nom, mais en tant qu'avocat, là, souvent tu as des définitions un petit peu plus détaillées que mes premières pensées.
Oui, bien un plan de financement, c'est le fait de se procurer un bien maintenant et de repousser soit en totalité ou en partie le paiement. On le voit de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs sortes de plans de financement. Il y a la formule déversement éco. Il y a la formule de paiement différé. Et il y a aussi la formule de congé d'intérêt. Donc, c'est les trois principaux ici qu'on a. Celui qu'on voit le plus souvent, c'est celui de la formule des paiements égaux.
Okay.
Celui qui est utilisé par PayBright et compagnie.
Ouais, et même quand on le voit plus... Je ne sais pas si ça a toujours... Parce que ça a toujours été elle qu'on a le plus vu. Il me semble que pendant une année, c'était la mode des congés d'intérêt.
Oui.
Tant, dans le temps, tu sais, ces choses-là.
Oui, exact.
Puis là, c'est PayBright, ces autres, je vois ça partout. Tu sais, je regarde pour m'acheter un cash-send à 12$, puis on me propose de le payer en 10 versements.
Ça n'a pas de sens. C'était... Tu sais, ça existe depuis longtemps, hein, les plans de financement. Avant, c'était principalement pour les biens qui étaient assez dispendieux. On pense aussi la vente à tempérament, comme les véhicules. On prend un prêt, on le prend par versement. Mais maintenant, c'est pour tout. Hein. Ça va d'un vêtement, c'est des chaussures. On peut tout faire par paiement différé. Et oui, il y a eu une époque où c'était les congés d'intérêt, mais là, c'est plus ça la problématique. On va aller regarder les trois ensemble, si tu veux bien.
Mais oui.
On va commencer par les versements égaux. Cette formule-là qui est, comme tu l'as dit, qui est la plus présente maintenant, c'est le fait de diluer le paiement total sur un échéancier prévu avec des paiements fixes. Par exemple, si je veux acheter une pièce de vêtement à 500$, je pourrais devoir payer 50$ par mois pour une durée de 10 mois qui va équivaloir à mon 500$. Bon, là, j'ai pris un exemple où il n'y a pas d'intérêt parce que c'est ce qu'on avance avec les paybacks et tout ça. Hein, pour essayer de nous faire mordre à l'hameçon, justement, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait des intérêts. C'est certain que tout ça, ça doit être mentionné au contrat. Contrat qui est le papier ou les petits caractères qu'on lit jamais, là. Ça, c'est le contrat.
Les petits caractères.
C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on lit jamais, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, oui, dans ce plan de financement-là, il faut indiquer ça va être quoi le prix total, ça va être quoi les mensualités, quand est-ce qu'on va devoir payer, la fréquence, les frais, les pénalités, les intérêts, tout ça, ça doit être indiqué. Donc, il faut faire attention. Et c'est, comme je le dis, ce qui est le plus répandu, et on va en reparler plus tard parce que c'est vraiment ça a son essor, parce qu'il n'y a même plus d'intérêt.
Ouais.
Quand il y en a, il faut que ça soit quand même indiqué.
Ouais. Puis même s'il n'y en a pas, tu sais, je ferai pas à semblant de jamais avoir mordu à l'hameçon. Quand je déménageais avec ma coloc, moi j'ai des chats, puis elle m'a vraiment demandé d'acheter un meuble pour cacher la litière des chats. Puis c'était un 200-250$ que je venais de déménager. J'avais pas l'argent pour l'acheter au complet. Fait que je me suis dit, c'est important pour elle, c'est de la colocation, je veux qu'elle soit contente. Fait que je l'ai acheté avec ses autres plans d'intérêt par mois. Ce paiement par mois. Puis j'ai vraiment lu tout le contrat, puis ça me rendait hyper anxieuse de passer là-dessus, mais j'étais comme si c'est ma seule option pour l'instant. Là. Mais j'ai lu tous les petits caractères.
Mais on va le voir, il y a quand même des avantages, je vais y revenir. Donc, même si je n'aime pas ce genre de plan de financement-là, il y a certains avantages, dont comme ta situation, on va y revenir, ça c'est certain. Donc ça fait le tour des versements égaux. Il y a maintenant la formule des paiements différés, du paiement différé. Ça, c'est une autre formule qui fait en sorte qu'on reporte un paiement ultérieurement, mais sans nécessairement établir des mensualités. Si je peux, par exemple, je vais donner un exemple, on achète un sofa, 2 000 $. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bien, vous devez payer le sofa d'ici un an. Et là, on ne donne pas nécessairement de mensualité à faire. On peut le faire comme ça, ou alors on peut en établir, mais sans dire par mois c'est tant. On pourra dire, bien, dans 3 mois, ça prend le premier 500. 3 mois après, ça prend le 1 000. Trois mois, le 1 500 et le 2 000. Donc, on va donner des indications au consommateur ou à la consommatrice et dire, voici ce que j'ai besoin, voici le temps qu'on a, et c'est tout. Donc, c'est une autre façon, mais c'est aussi dangereux, hein? Parce que là, on peut se dire, ben, il n'y a pas de paiement. Et là, si on oublie, on peut rapidement avoir de la difficulté. Parce que ça aussi, dans tous les plans de financement que je vais parler aujourd'hui, il faut naturellement mentionner les intérêts, les pénalités, les frais, tout ça. Donc, ça doit être au contrat. Mais les gens qui ne lisent pas et qui pensent qu'ils peuvent l'acheter maintenant et s'en sauver pendant les 3 premiers mois, ben là, ça va être des mensualités assez élevées après ça pour rattraper.
Okay. C'est ça, parce que les mensualités peuvent embarquer après le délai.
Ben, si par exemple, on ne donne pas de mensualité, mais qu'on dit d'ici un an, ça va prendre le 2 000 $, et que là, on se décide qu'il reste, ça fait 10 mois qu'il est parti, il reste juste 2 mois, ben, ça va prendre 1 000 par mois pour les 2 mois. Là. Donc, ça peut aller vite. Ça demande beaucoup de rigueur pour ce plan de financement-là.
Moi, ce qui me vient en tête, c'est que pour chaque achat qu'on décide de faire avec un plan de financement, il y a un contrat, comme tu dis, il y a des petits caractères à lire. Puis là, à un moment donné, si tu as 3, 4, 5... c'est bien de consommation avec des mensualités de même, je vois pas comment qu'on peut suivre.
Il est là le problème.
Sur notre budget.
Surtout que là, on va le voir, lorsqu'on enlève les intérêts, les gens peuvent être portés à sauter sur ces occasions-là et de cumuler ces plans-là. Et là, c'est dangereux. Et si on les mélange ensemble, si on prend des versements égaux et qu'on prend aussi des paiements différés, donc là, on va se dire, je vais pas commencer ceux-là tout de suite. Ça devient difficile à gérer comme budget.
Ça rentre dans la gestion des dettes.
Donc ça, c'est le deuxième plan. Le troisième plan, qui est celle qu'on voyait auparavant, et là, celle-là, j'espère qu'on le voit de moins en moins, qui est celui de formule de congé d'intérêt. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle aussi des paiements égaux pour lesquels il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas si longtemps, il y en avait des intérêts. Pas des super élevés, mais il y avait des intérêts. Et comment la formule de congé d'intérêt fonctionne? Ça nous permet d'acheter un produit et de ne pas avoir à payer d'intérêt pour une période donnée. Donc, par exemple, payez pas d'intérêt pour les 2 premières années. Et là, ben, on se retrouve le même prix, le sofa à 2 000 $. Donc, on prend des paiements par mois. Et pendant les 2 premières années, on n'a pas d'intérêt. Mais tout comme les cartes de crédit, et là, je ne veux pas rentrer dans l'analyse de la carte de crédit, comment ça fonctionne, mais si on n'a pas terminé de paiement total avant la période de 2 ans où les intérêts ne s'appliquent pas, on va charger des intérêts sur la somme totale qui est exigée au départ et non pas la somme qui reste. Et vous pouvez être certain et certaine que le plan de financement ne sera pas sur 2 ans. Si on dit un congé d'intérêt sur 2 ans, le plan de financement que vous avez probablement sur 3-4 s'assurer que si vous faites le paiement minimum indiqué, ben vous n'allez pas finir avant le temps des intérêts. C'est certain qu'on va faire ça.
C'est sneaky.
Ben, faut lire le contrat. Donc, faut voir. Mais faut voir, faut s'assurer, parce que je dis pas qu'on va systématiquement faire ça. Mais je peux vous l'assurer qu'il y en a qui le font. Parce que c'est certains qui vont dire, ben, vous payez tant par mois et regardez donc le contrat est sur combien de temps. Et si ça dépasse la période du congé d'intérêt, on va être dans le pétrin. Si nous-mêmes, on décide d'appliquer plus d'argent, mettre plus de sommes pour payer avant, pas de problème, on va sauver totalement les intérêts. Mais encore là, de la rigueur que ça prend. Donc ça, c'en est un autre. Et comme celui-là, vraiment, dans celui-là, il y a même une part là, vraiment un peu malsaine qu'on peut voir du côté des commerçants. Donc, on revient... Ça, c'est les trois qu'on avait, les trois formules.
Différentes formules. Ce que je trouve vraiment comme parallèle, si je peux dire, avec ce que tu me parles, c'est que quand on propose un plan de financement, souvent, c'est pour dire « ça va être plus facile », puis on dit « ça va être plus facile pour moi ». Mais de ce que je comprends, c'est tout le contraire. Un plan de financement, ça apporte beaucoup plus de difficultés tu sais, ça demande pas beaucoup plus de difficultés, mais ça demande clairement plus de temps. Faut que tu t'informes, faut que tu comprennes comment que ça fonctionne, faut que tu l'ajoutes à ton budget. Finalement, c'est pas plus facile.
Mais c'est comme ça qu'on devrait le voir. On mm-hmm. devrait voir comme étant quelque chose qui est quand même assez complexe.
C'est ça.
Mais je suis allé voir le site Internet d'une de ces compagnies-là qui offre ces services-là et on nous dit c'est 3 clics faciles. C'est ce qu'on veut apporter les consommateurs et les consommatrices à faire. Hein. C'est facile, c'est simple, on clique. On veut pas que les gens pensent à tout ce qu'il y a en arrière de ces plans de financement-là.
Ouais.
Et c'est là qu'on se dirigeait vers ça, vers le pour et le contre, pour voir si ça existe, ces plans-là. Maintenant qu'on sait que ça existe, est-ce qu'on peut essayer de séparer ce que ça peut nous apporter de bon, ce que ça peut nous apporter de mauvais?
Mais je suis fière de toi de vouloir faire les pour et les contre, parce que je sais que ça pourrait être dans ta nature de peut-être dire non, c'est juste le démon, oui, c'est les contre, mais si t'as des pour, ça doit te faire un vraiment bon travail de recherche.
Mais va pas trop vite, il y a beaucoup plus d'inconvénients, ça je te le garantis, mais j'ai quand même essayé d'être le plus neutre possible en disant, mais c'est certain qu'il doit y avoir des avantages. Et dans les avantages que j'ai notés, il y a celui lorsqu'on a des imprévus qui arrive, on déménage, on a besoin d'un meuble pour cacher une litière, par exemple. Le genre de choses que, si on a prévu notre budget, on devrait prévoir certaines situations qu'on peut noter imprévisibles, mais qu'on peut prévoir dans le budget. Ça arrive parfois, je peux nommer d'autres exemples, on arrive, on n'a pas prévu et le réfrigérateur brise. Ça se peut, ça, que ça arrive. Et là, on n'avait pas prévu l'argent de côté pour remplacer le réfrigérateur. Mais c'est possible, justement, si on n'a pas l'argent directement, d'avoir recours à ce système-là, avec les Paybrides, Sezzle et tout ça, de pouvoir avoir le réfrigérateur et d'étirer le fardeau financier, parce qu'habituellement, il se serait appliqué maintenant, hein, exemple, un 1200.
Puis c'est bien beau avoir un réfrigérateur, mais si tu n'as plus d'argent pour mettre de la bouffe dedans.
Exactement, là. Aussi. Donc, ça permet de pouvoir, justement, différer la charge, nous laisser le temps de retomber sur nos pieds. Mais ça ne veut pas dire d'y aller rapidement, comme tu l'as mentionné, de lire les termes, les clauses du contrat. Donc, il faut faire attention, mais c'est un avantage. On n'a pas prévu, il y a un imprévu, on l'a. Ça fait partie de l'avantage. J'en ai juste un autre avantage. L'autre avantage que j'ai, mais qui se retrouve également dans les désavantages, c'est celui de l'accessibilité. C'est simple, c'est efficace, et malheureusement, c'est pas partout où on va faire une enquête de crédit. Donc, parfois, on mentionne, on va faire une enquête de crédit qui ne sera pas mentionnée au dossier de crédit, ce qui fait en sorte que si on a un mauvais dossier, on pourrait quand même être accepté pour ce genre de financement-là. Ça peut être un avantage, famille qui a de la difficulté, un imprévu qui arrive, pas de danger de se faire refuser ou très peu. Ça peut être vu comme un avantage. Par contre, on va le voir dans les inconvénients, si on a des difficultés financières, c'est pas le temps de se lancer sur ces plans-là. Donc, on va le revoir dans les inconvénients, tu peux être assuré. J'ai malheureusement rien vu d'autre comme avantage à ça. Et je veux pas dire que, je sais pour des gens, on me dirait que, ben là, on peut avoir accès tout de suite à un bien, mais c'est pas comme ça que dans le budget ça devrait fonctionner. On devrait prévoir en amont, on va y revenir dans les suggestions. Donc ça fait pas mal le tour.
Ben tu sais, les enjeux de des plans de financement, excuse-moi, c'est vraiment que ça peut mener à la surconsommation.
Exact.
Tu as des notes un peu ici, puis je vois que c'est là, on n'en avait pas parlé au début, mais c'est ça le très grand risque, là.
Tout à fait. Et là, je tombe justement dans tous les risques, tous les inconvénients qu'on a. Je vais le mentionner, mais je le garde quand même plus tard parce qu'il est volumineux, ce dossier-là. Okay. Mais je vais commencer par dossier de crédit. C'est un inconvénient parce que malheureusement, la façon dont ces plans-là sont faits, c'est que c'est une entente envers la tierce partie, ici le PayBright ou le Sezzle ou l'Afterpay, avec le commerçant. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète et qu'on paie mensuellement. Et les virements vont se prendre directement soit par la carte débit, donc dans le compte direct, ou par la carte de crédit. Mais dans tous ces cas-là, ce n'est pas comme si, à l'ancienne, on prenait un prêt et qu'on le payait par mois, ce qui aidait à bâtir notre crédibilité auprès des institutions financières.
Puis à se responsabiliser.
Exactement. Et là, on ne vient pas construire en aucun cas le dossier de crédit. Non seulement ça, c'est pas mentionné au dossier de crédit, mais ça va l'être si on rate des paiements. Donc, le seul point qu'on peut y retrouver, c'est des points négatifs pour le dossier de crédit. Si on rate des paiements, si on arrête de payer tout simplement, bien, ça va se retrouver au recouvrement, puis on va le voir au dossier de crédit. Donc, il n'y a rien de positif pour notre dossier de crédit, et il n'y a que du négatif qu'on peut en retirer. Donc, c'est un premier inconvénient, et ça ne contribue pas justement à se forger un dossier de crédit. Deuxième inconvénient, surendettement. Donc, si on n'a pas l'argent pour acheter maintenant un produit, donc on devrait faire comme à l'ancienne, prévoir en amont ce qu'on doit. Et on va et de redécouvrir la satisfaction d'avoir économisé pour obtenir un bien. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais, on met de l'argent de côté et enfin, finalement, j'ai l'argent, je peux m'acheter ce bien-là. Si on achète un bien qu'on n'a pas l'argent pour le payer, inévitablement, va falloir commencer à épargner. Donc, ce qu'on aurait dû faire à la base, on va devoir le faire dans le futur. Hein?
Oui.
Donc, c'est une autre problématique. Donc, s'acheter des produits qu'on ne peut pas nécessairement s'acheter maintenant, c'est un autre problème qui mène au plus gros problème, selon moi, qui est la surconsommation. On achète un produit, non seulement qu'on ne peut pas nécessairement s'acheter, et là, on le voit de plus en plus, ce qu'on voit, c'est on voit sans intérêt. Donc, en plus, on veut nous amener à l'acheter. Et là, ça ne s'adresse pas, je vous le dis, là, ces plans de financement-là, ça ne s'adresse pas aux gens qui achètent déjà de cette façon-là. Pourquoi on met ça sans intérêt? On l'a déjà vu cette phrase-là, là, si c'est gratuit, c'est vous le produit. On pourrait l'appliquer un peu à ça. C'est pas gratuit, mais c'est trop beau pour être vrai. Dites-vous pourquoi c'est comme ça. C'est pour essayer de vous porter, vous amener à acheter des produits que vous n'auriez jamais achetés auparavant. Par exemple, si on revient à l'exemple du vêtement de 500 $, jamais j'aurais acheté un vêtement à 500 $ directement. Par contre, 10 paiements de 50 $, ça a l'air pas mal mieux.
Ouais.
Je vais me dire, bien là, ça a l'air mieux, puis ça vient avec une paire de bottes que ça me rajoute juste 10 $, je suis rendu à 60 $. Pourtant, je peux venir quand même me montrer une facture assez importante avec des petits versements par mois.
Oui.
Donc, on veut aller chercher des gens qui auraient dit, ah non, 500, c'est trop, qui vont être portés à dire « Ah, ben 50, c'est pas si mal. » Donc, c'est pour ça qu'il y a là le risque des commerçants de on compte sur la surconsommation pour rentabiliser ce produit-là, ces plans de financement-là. Donc, c'est ça qui est plus problématique. Et ça l'amène le problème de l'accessibilité. Donc, je l'ai mentionné dans les pour, dans les avantages, mais c'est un inconvénient en soi. C'est facile d'accès. Parfois, on ne fait même pas d'enquête de crédit. Dites-vous que si vous avez un mauvais crédit ou si vous avez des problèmes financiers, c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour acheter et reporter à plus tard. Vous devriez structurer mieux le budget. Et là, le problème avec ça, c'est qu'on devrait regarder votre capacité de remboursement. Habituellement, et là, ça va être dans les questions plus tard aussi, c'est ce qu'on faisait pour un prêt à la base. Lorsque on va à une institution financière, on est obligé de, par la loi, de vérifier notre capacité de remboursement. C'est nullement fait dans ce cas-là. On le voit pas, là. Il y a personne, jamais cette zone va faire « Ah, vous n'avez pas la capacité. » Oh non, au contraire. Hein? Donc, oui, ça se peut que parfois on se fasse refuser, mais c'est extrêmement rare. Donc, c'est un problème, parce que plus c'est lousse, comme on dit, ben plus on s'amène à la surconsommation, plus ça mène au surendettement, et là, on revient, plus ça affecte le dossier de crédit, hein? on déboule. Là, hein? Et le dernier inconvénient, qui n'est pas le moindre, et que je veux qu'on pense, c'est tout ce qui est frais, pénalité, intérêt. Donc, bien beau, on va me dire, ouais, mais il n'y en a pas, Sébastien, de frais, il n'y en a pas, il n'y en a pas de pénalité, on paye par mois, puis c'est tout. Ça, c'est si on manque pas de paiement, si on suit les mensualités et si on les cumule pas, on en a parlé brièvement tout à l'heure, si on les cumule et qu'on les rendu avec des 2-3 à versements égaux, mais qu'on a aussi un qui est en paiement différé, comment on se retrouve? Et là, si on manque un paiement, et là, les pénalités rentrent puis rentrent solides. Et là, la problématique qu'on a avec ça, c'est que j'ai même pu lire des statistiques, donc une étude qui vient de Crédit Karma et qui disait qu'aux États-Unis, 34% des utilisateurs qui ont utilisé ce service-là ont sauté un ou plusieurs versements.
34%?
34, c'est immense. 34%,
j'en ai perdu ma voix.
C'est immense, 34%. Ah oui. Et là, on va se dire, ben, moi, ça ne m'arrivera pas. Mais c'est sûr que sur le 100%, ces 34%-là aussi se disaient, ben, ça ne m'arrivera pas. Mm-hmm. Et là, quand on parle du sans intérêt, sans pénalité, sans frais, je veux dire qu'ils sont quand même élevés quand on arrive. Et ça, c'est sans parler de pouvoir perdre le bénéfice du terme, qui est le fait de dire, ben, si on a 2 ans pour payer, si on rate des paiements et qu'on nous envoie un avis en disant, ben, maintenant, vous aviez le bénéfice de pouvoir payer par mois pour 1 an, 2 ans, mais comme vous avez raté un paiement, on vous demande la totalité maintenant. Ça, c'est des histoires d'horreur qu'on peut voir ici, là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On sait les avantages, on sait les inconvénients, on sait ce que c'est aussi un plan de financement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Hein? Première chose, je le dirai jamais assez, établir un budget. C'est la base de toute saine situation financière, hein? D'établir un budget et de prévoir en amont, comme on en a parlé. Pourquoi se dire, bon, ben là, j'aurai besoin d'une nouvelle paire de bottes, c'est 200$, je vais payer, je sais pas moi, pendant 20 mois, 10$, hein? Au lieu de le voir comme ça, pourquoi se dire, au début de l'année, on prévoit, est-ce que ça va me prendre une nouvelle paire de bottes en novembre? Bon, il me reste tant de mois pour mettre cet argent-là de côté. Quand novembre arrive, j'achète la paire de bottes. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut prévoir son budget. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de se questionner, de se demander, est-ce que j'aurais effectué cet achat-là si j'avais les moyens maintenant de l'acheter au complet, de payer la totalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller chercher les consommateurs, les consommatrices qui vont justement déroger à ce principe-là en se disant, ben là, c'est juste 50 par mois, mais le 500, l'aurais-tu payé maintenant? Posez-vous la question. Si la réponse est non...
C'est une très bonne question à se poser.
Si la réponse est non, on le fait pas. Pas ouais, mais non. La réponse est non, on range la carte de crédit, on range tout, on fait pas l'achat. Troisième conseil... On en a parlé, lire le contrat, les petits caractères, lire le papier qu'on nous remet quand il y en a aussi. C'est complexe, je le sais, mais sachez-le, il y a des obligations par le commerçant et des fois, vous pouvez voir, ben, c'est pas cher par mois, pas d'intérêt, mais regardez donc si vous ratez un paiement, c'est quoi les pénalités? Qu'est-ce qui va s'appliquer? Prévoyez-le. Et là, tu en as parlé tout à l'heure aussi que tu disais ça, puis tu te sentais un peu mal hein, en lisant ça, mais on va le voir que c'est loin d'être si beau que ça semble être. Hein? Mm-hmm. Donc, faire attention, bien lire les contrats, consulter des professionnels si vous voulez. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne comprenez pas tout à fait, consultez les professionnels. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de garder un œil sur nos finances. Donc, par exemple, s'il vous plaît, de grâce, si vous avez eu recours à ces plans de financement-là, notez-le. Quand est-ce que ça passe? C'est combien le paiement? Quand est-ce? Si j'en ai plusieurs, est-ce que j'en ai un le 17, un le 15? Je suis en train de vous dire, c'est un conseil, si vous avez eu recours à ça, restez proche de vos finances, s'il vous plaît. Ne les cumulez pas. Si malheureusement, vous en avez déjà plusieurs, établissez des plans stricts à savoir quand est-ce que ça passe, combien j'ai à payer, qu'est-ce que je dois mettre de côté pour s'assurer que vous restiez en bonne santé financière.
Bien, merci beaucoup, Sébastien.
C'est un plaisir.
On enchaîne avec une chronique de Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Marianne.
Ça tombe bien parce que j'ai terminé l'entrevue avec Sébastien en parlant du budget. Puis toi, tu viens nous parler du budget des fêtes, c'est ça?
Ben oui, encore le budget.
Ouais, on n'en parlera jamais assez. Ben, en tant que conseillère budgétaire, tu as peut-être des choses encore plus... Ben, c'est sûr que tu as des choses encore plus pointilleuses à nous proposer. Fait que je t'écoute.
Ben écoute, on va parler du budget de Noël. Je pense que ce qui est difficile avec Noël, c'est que les émotions rentrent beaucoup, beaucoup, beaucoup en ligne de compte. On aime les gens qui nous sont proches, on veut leur faire plaisir, on veut leur donner des cadeaux. Et la société de consommation dans laquelle on vit nous incite beaucoup à prouver notre amour avec les cadeaux qu'on donne puis avec l'argent qu'on dépense.
C'est tellement vrai.
Pourtant, il y a tellement d'autres voies. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais vous faire réfléchir, pour déconstruire un peu cette idée que l'amour qu'on donne va être proportionnel à la grosseur des cadeaux ou des investissements dans les décorations qu'on va faire. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est que la charité bien ordonnée commence par soi. Puis ça, c'est essentiel. Quand on veut faire des cadeaux à des gens, la première chose à faire, c'est de regarder c'est quoi, de combien je peux disposer. Je dois faire face à mes obligations, à mes engagements. Mm-hmm. Je dois assurer ma propre sécurité financière parce que si j'aime vraiment les gens qu'il y a autour de moi, au fond, je dois conserver mes assises, rester solide et conserver ma sécurité financière. Comme ça, quand les gens que j'aime ont des pépins, je suis là pour les soutenir. Et c'est ainsi que je vais pouvoir vraiment être là quand mes proches en ont besoin.
Oui. Puis moi, c'est un peu ce que je vis, en fait. Là. Mon copain, il est encore chez ses parents. Moi, ça fait 4 ans que je suis plus chez mes parents. J'ai d'autres responsabilités financières. Puis c'est un peu la première fois que je suis dans cette situation-là avec quelqu'un. Puis là, tu sais, il a fallu que je lui dise que moi, mon budget de cadeau de Noël, c'est pas le sien. Tu sais, même s'il travaille beaucoup moins que moi, il a vraiment pas les mêmes responsabilités financières. Puis tu sais, ça a été dur à parler, à expliquer. On n'a pas tout à fait la même façon de voir notre argent puis la relation avec l'argent. Mais moi, je me sens en sécurité par rapport à ça. Puis ça m'est arrivé d'autres Noëls de mettre un peu plus de pression parce que justement, j'étais avec des garçons qui faisaient plus d'argent que moi, etc. Puis je me sentais toujours hyper mal parce que, en effet, la charité était pas bien ordonnée chez moi. On se sent beaucoup mieux.
J'adore ce que tu me dis, Marianne, parce que ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as fixé tes limites.
Mm-hmm.
Et ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. Quand on parle de sécurité financière, il faut apprendre à fixer ses limites puis se respecter dans ce qu'on peut faire. Et c'est ce que tu as fait. C'est le modèle parfait de ce que je voulais dire.
Moi, je viens
dire.
Ici pour me faire lancer des fleurs. Je me dis, mais bon coup en tant que conservatrice.
Bien, parfait. Ça peut inspirer. Tout à fait. C'est difficile d'en parler, mais c'est quand même important. D'autres situations qu'on peut voir aussi où il est difficile de fixer ses limites, par exemple, quand on est parents, si on a des enfants.
Mm-hmm.
Mon Dieu, parfois que c'est difficile de résister à l'envie d'acheter ce que nos enfants désirent obtenir. Pourtant, si on les aime, on ne veut pas leur faire croire non plus que dans la vie, ça va être ainsi et qu'on va pouvoir obtenir tout ce qu'on désire, parce que ce n'est pas ça la vie. Si je les aime vraiment, je vais aussi leur démontrer que je dois respecter mes limites, mes capacités de payer. C'est ça que je vais leur enseigner, puis c'est ça qui va être important pour à transmettre comme valeur. Je vous laisse réfléchir là-dessus, fixer vos limites. Il y a de l'aide pour ça. Vous pouvez en parler avec d'autres personnes si jamais vous trouvez ça difficile, comme tu viens de le faire. Moi, je trouve ça très, très inspirant.
Ouais, merci.
Une autre chose que je voulais souligner et vous inviter à réfléchir, c'est que si le temps, c'est de l'argent, ben l'amour est dans le temps. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux gens qu'on aime se situe beaucoup dans le temps qu'on leur offre. Alors, on peut ouvrir notre imaginaire, on peut bien sûr acheter des cadeaux, mais on peut prendre le temps de tricoter des choses, on peut prendre le temps de fabriquer soi-même quelque chose qu'on va offrir à quelqu'un. Ça va être extrêmement personnalisé, ça va être dédié, puis il n'y aura pas juste l'objet qu'on donne, mais tout le temps qu'on y a consacré. On peut donner des coupons soirée juste avec toi, on peut offrir, puis au fond, là, l'amour qu'on donne aux gens, ça se trouve dans le temps qu'on donne au quotidien, dans les gestes qu'on pose à leur égard, beaucoup plus que dans les objets qu'on leur offre.
Puis je sais que je suis un peu peut-être chanceuse à ce niveau-là parce que je suis dans une famille très artiste, très créatrice, très créative. Mes parents sont reconnus au conservatoire de musique. Ma soeur s'appelle Mélodie, pour donner une idée. Là.
Okay.
Moi, j'étais peut-être supposée m'appeler Harmonie. Puis tu sais, c'est arrivé souvent des Noëls que ma soeur, par exemple, elle m'écrit une chanson. Mon père, il fait toutes nos cartes à la main. Puis moi, cette année, j'ai décidé, ben là, je leur dirais de pas l'écouter avant que ça soit Noël, mais tu sais, je vais faire un vision board un peu pour chaque membre de ma famille. Fait que tu sais, c'est un collage photo de
c'est tes désirs que t'as pour eux.
Oui, exactement.
Wow.
Fait que tu sais, moi, je sais qu'ils vont l'apprécier. Je suis hyper chanceuse peut-être d'avoir une famille ouverte comme ça, mais je dirais à tout le monde de oser développer sa créativité.
Mais ça se cultive, en fait, c'est ça que je vois.
C'est
aussi.
Les plus beaux cadeaux, c'est les plus beaux moments. Là,
et
vraiment.
Tu t'en rappelles encore, hein?
Mm-hmm.
C'est la chanson que tu as eue de ta sœur. Ça laisse des traces indélébiles. Ça, c'est certain. Tu t'en rappelles toute ta vie.
Ouais.
Et tu m'amènes à mon autre point, qui est celui de la créativité. Je suis contente d'entendre que dans ta famille, il y en a beaucoup, mais moi, je pense que c'est une carte à tout qui est essentielle aussi, de laisser aller son imagination. C'est la principale force que vous aurez pour pouvoir trouver des solutions, que ce soit pour décorer, pour faire toutes sortes de choses, comme recycler également, qui est important aussi comme valeur à transmettre pendant les fêtes. On peut réutiliser les papiers d'emballage qu'on a déjà utilisés.
Oui. Moi, j'utilise du papier journal. Toute ma famille, je vous fais un beau portrait de ma famille aujourd'hui. Mais oui,
avec
c'est
un
super
beau
cute.
Ruban, ça peut être magnifique et très joli. C'est important aussi, si vous n'avez pas le choix, là, j'essaie de trouver des solutions là, pour aller en dehors du crédit, mais il peut arriver quand même que vous ayez besoin de l'utiliser. Si vous le faites, prenez le temps de comprendre ce qui est vraiment le crédit. T'sais, le crédit, c'est pas gratuit. Quand on l'utilise, il faut le rembourser à un moment donné. Donc, si vous empruntez 300 $, ben, si vous remboursez seulement avec le paiement minimum, ça va vous prendre 3 ans et demi avant de rembourser ce montant-là. Puis, vous allez payer des intérêts de 118,24 $ à 3 % de si c'est à 3 % là, du montant minimum. C'est énorme. 118,24 $.
C'est plus que la moitié de l'achat.
Ben, c'est ça. C'est ça. Si on prend le temps de prévoir, ça va nous éviter beaucoup de stress, ça va nous éviter d'utiliser le crédit. Noël, c'est le 25 décembre, c'est prévisible. Alors, commencez à épargner tout de suite au mois de janvier. Faites-vous une petite enveloppe qui va être juste dédiée pour ça, ce qui va vous donner l'occasion aussi de profiter des rabais en cours de route, puis d'avoir les meilleures possibilités pour arriver à Noël en paix, bien reposé et pas stressé du tout.
Ben merci beaucoup, Joanne, pour tes conseils. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Si vous avez envie de créer des cadeaux, si vous avez des idées de cadeaux que vous aimeriez nous partager, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça va nous faire super plaisir de vous lire.
Vous pouvez aussi télécharger notre grille du budget de Noël sur le site d'Options Consommateurs.
Super! Bonne journée à tout le monde!
Bonne journée!